On va ensemble ouvrir la parole de Dieu. Nous allons continuer notre parcours dans l'épître de Paul aux Colossiens, une épître formidable que nous découvrons petit à petit au fur et à mesure des semaines passant. Et nous allons lire au chapitre 2, notre lecture va débuter au verset 4 et nous lirons jusqu'à la fin de ce chapitre, Colossiens 2, verset 4. Je dis cela, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire d'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Amen. Gloire à Dieu. Après avoir, au premier chapitre, parlé de la souveraineté de Jésus, de sa prééminence, de sa divinité, après avoir aussi parlé de son ministère, l'apôtre Paul maintenant va rentrer un peu plus dans le détail par rapport à certaines hérésies qui perturbaient l'église de Corinthe, de Colosse, excusez-moi, l'église de Colosse. Mais il va bien sûr exposer certaines choses, mais on voit bien que l'apôtre Paul ne rentre pas dans trop de détails. Bien sûr, il évoque certains sujets précis, mais je ferai remarquer une chose, c'est que le souci de l'apôtre Paul, c'est que les chrétiens de Colosse soient ancrés, soient fixés, soient centrés sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui est important pour nous. Je lisais ces jours-ci un très bon livre, par ailleurs, qui expose certaines hérésies qui guettent l'Église d'aujourd'hui. Très bon livre qui expose en détail toutes ces hérésies. Mais ce qui m'a semblé un petit peu dommage dans ce livre, c'est qu'il ne parle que très peu de Jésus. Or, le vrai problème, c'est un manque de connaissance de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul va surtout parler de ça dans cet épître. Il y a bien sûr le danger des hérésies, mais quand notre foi est fondée sur la personne et uniquement sur la personne du Seigneur Jésus-Christ et que notre cœur cherche à toujours mieux le connaître, c'est le meilleur de tous les remparts contre les hérésies. Néanmoins, l'apôtre Paul évoque certaines choses et nous allons quand même les évoquer. Car l'apôtre Paul met en garde sur certaines hérésies qui secouaient l'église d'alors, l'église de Colosse, hérésies qui existent toujours d'ailleurs dans leur fond, même si la forme a changé, le fond de ces problèmes existe toujours aujourd'hui. Nous allons voir certaines choses ce matin, notamment et premièrement, la manière dont ces faux docteurs s'y prenaient par rapport à l'Église. Nous allons donc voir quelle était leur méthode et quel était leur enseignement. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'entendre ces choses. L'apôtre Paul avait pu dire à Timothée, que viendra un temps où ces faux docteurs, il y en aura beaucoup, de plus en plus, et ils se donneront une foule de docteurs selon ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et l'apôtre Pierre dira aussi que s'il y a eu une période où il y a eu des faux prophètes, viendra une période où il y aura des faux docteurs. Et nous sommes aujourd'hui dans cette époque qui voit éclore tout un tas de faux docteurs avec leur cortège de poisons et d'hérésies. Comment utilisent-ils cela pour introduire leur poison dans l'Église? Verset 4, l'apôtre Paul avait pu dire, je dis cela, donc tout ce qu'il a pu dire avant au chapitre 1er, où il parle de la supériorité de Jésus-Christ, de sa divinité, de sa prééminence, lorsqu'il expose aussi son ministère, comme nous avons parlé la semaine dernière. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Une des armes, c'est la séduction. Il y a quelque chose qui séduit, qui plaît, il y a quelque chose qui attire, comme les insectes qui sont attirés vers la lumière. Mais n'oublions pas que Satan et ses démons se déguisent en anges de lumière. C'est-à-dire qu'ils apportent une révélation et la lumière attire. Mais là, c'est une fausse lumière. Ils séduisent les cœurs. Ils séduisent les cœurs par ces discours qu'ils ont. Au verset 8, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Ce sont des prédateurs. » Il faut bien comprendre que tout ce que nous avons à voir là, leur méthode, c'est des méthodes de manipulateurs. Ce sont des prédateurs. Ils cherchent leur proie. Ils tendent des pièges. D'ailleurs, certaines versions ont traduit ainsi. Ils tendent des pièges. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Au verset 16, nous avons lu qu'ils jugent, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, des nouvelles lunes, des fêtes et des sabbats qui étaient en vigueur dans le judaïsme. On va en reparler probablement. Donc quand on juge quelqu'un, c'est quand on prend autorité sur lui par rapport à son comportement, par rapport à ses idées, par rapport à sa foi, par rapport à ses croyances. On juge. Et quand on juge, on a pris autorité sur une personne. C'est encore là une méthode utilisée par ces manipulateurs. D'ailleurs, on retrouve cela au verset 20. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Voilà donc des personnes qui imposent, qui s'érigent en dictateurs, j'allais dire quelque part, de la foi des personnes, de leur comportement, qui abusent d'une certaine autorité, mais comme dira l'apôtre Paul, lui aussi avait une autorité. Notre autorité n'est pas pour la destruction, pas pour détruire, mais pour l'édification. Or, eux utilisaient une pseudo-autorité pour mettre un joug terrible sur le dos des croyants. Joug que n'ont pas pu porter les croyants de l'Ancien Testament. Jésus le dira bien. Et cela ne faisait qu'accroître un certain découragement. Et Jésus avait pu dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Fatigués et chargés par toutes ces observances légales et religieuses dont ils étaient obligés d'accomplir. Mais cela n'amenait rien de nouveau dans leur vie, cela ne changeait rien à leur cœur. Mais le joug du Seigneur, lui, il est léger. Alléluia. Il est léger, le joug du Seigneur. Que son nom soit glorifié. Alors, voilà ces personnes s'imposent. Voilà que ces personnes usent et abusent d'une certaine autorité. Le résultat, au verset 18, qu'aucun homme, sous une apparence, voilà, les apparences, ils sont trompeuses, ils sont trompeurs, une apparence d'humilité. Alors ça, c'est très séducteur dans l'Église, l'apparence d'humilité. Parce que, bien sûr, nous aspirons à l'humilité, nous voulons marcher d'une manière humble. Et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Voilà, donc il y a quelque chose qui nous est volé. Et quand on va dans cette direction-là, quand on va et quand on s'adonne à ces pratiques-là et à ces croyances-là, il y a quelque chose qui est volé dans le cœur du croyant. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Or, n'oublions pas que le même apôtre avait pu écrire dans cet épître « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Alléluia. L'espérance de la gloire. Voilà donc quelques mots les ingrédients des méthodes de ces manipulateurs, de ces faux docteurs. Voyons vite un petit peu un survol de ces hérésies, du contenu de ces hérésies qui existaient alors et qui existent encore aujourd'hui sous d'autres formes. Au verset 8, l'apôtre Paul parle de philosophie. Il parle de philosophie. C'est vrai que l'Antiquité était riche en philosophie. On le voit lorsque Paul est arrivé à Athènes, Il y avait tous ces discoureurs qui étaient là, les épicuriens, les stoïciens. Et il n'y a qu'à ouvrir certains ouvrages pour voir que cette époque-là était riche en toutes sortes de philosophies, des écrivains, des poètes fameux ont existé à cette époque-là. Et leurs écrits, leurs pensées nous sont parvenus jusqu'alors. Mais au-delà de ces philosophies qui étaient à l'extérieur de l'Église, d'autres philosophies s'étaient introduites à l'intérieur de l'Église, une certaine pseudo-sagesse, car en fin de compte, eh bien c'est cela la philosophie, une pseudo-sagesse avec un certain vernis chrétien. C'était une sagesse tout en rejetant le Seigneur. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dira bien, sans s'attacher, eh bien, au verset 19, sans s'attacher eh bien, au chef, c'est-à-dire sans s'attacher à Jésus-Christ. Il y a aujourd'hui certaines pensées qui existent, certaines sagesses qui pourraient exister et qui pourraient troubler l'Église. Mais n'oublions pas, et c'est l'essentiel en fin de compte, ce qui est écrit et que nous avons vu la semaine dernière au verset 3, que tous les trésors de la sagesse et de la science sont dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si nous voulons vraiment la sagesse, nous l'avons tout pleinement dans notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous passons à côté de cela, nous passons à côté de l'essentiel. C'est la pierre d'achoppement. Ils ont rejeté cette pierre d'achoppement, eux qui voulaient construire une certaine sagesse, une certaine philosophie de vie pour vivre mieux, sont passés à côté de l'essentiel, c'est-à-dire à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en lui, verset 9, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Nous avons tout pleinement dans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul insiste beaucoup. On l'a vu au chapitre 1er. On verra dans les chapitres suivants où il parle du comportement du croyant. C'est important. Mais le fondement de notre comportement, il est en Christ. Alléluia. Il est en Christ. Au verset 16, on voit aussi qu'il y avait une fausse sainteté. En plus d'une fausse sagesse, il y avait une fausse sainteté. D'ailleurs, certains imposaient même la circoncision. C'est pour cela que l'apôtre Paul parle de la circoncision, mais il dira que la vraie circoncision, c'est celle du cœur. Et ailleurs, il dira aux Galates, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Au verset 16, on voit qu'il parle de certaines choses, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, des sabbats, et puis un peu plus loin, il parle de ses préceptes qui vont en crescendo, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. C'est une sainteté sans Jésus, un légalisme dans lequel on veut trouver une certaine justification aux yeux de Dieu, mais on ne peut pas. Il n'y a qu'en Jésus qu'on est juste. De nous-mêmes, c'est impossible. De nous-mêmes, c'est impossible. Et donc, ils imposaient ces choses-là, le manger et le boire, et on sait que dans le judaïsme, il y avait beaucoup de règles au sujet du manger et du boire. Donc, ils mélangeaient à ces philosophies certaines règles du judaïsme tout en conservant un certain vernis chrétien. Et ils imposaient toutes ces choses-là au sujet d'une fête. Il y avait ces fêtes religieuses qui existaient. Les nouvelles lunes, à chaque mois, il y avait ces lunes et qui étaient marquées par une fête. Et puis, il y avait les sabbats, bien sûr. Mais nous savons que toutes ces choses-là, nous n'avons plus à les accomplir. Car comme dit l'apôtre Paul, c'était l'ombre des choses à venir. Si vous voyez mon ombre, c'est pas moi, c'est que mon ombre. C'est l'ombre de mon corps, tout simplement. C'était l'ombre des choses à venir, ces choses-là. Mais la réalité, le corps, est en Christ et c'est vers lui que nos yeux se tournent. Ne cherchons pas, frères et sœurs, notre justification en nous imposant toutes ces choses-là. Ça ne mène à rien, on se fatigue pour rien. Et en fin de compte, pire que ça, pire que de nous fatiguer, ça nous détourne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a une vraie séduction aujourd'hui par rapport à cela. Il y a une vraie séduction par rapport au sabbat. Il y a une vraie séduction par rapport au fait de manger certaines choses et de ne pas en manger d'autres. Mais ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Non. C'est ce qui en sort. Comme dira quelqu'un, ce n'est pas manger du cochon qui nous souille, c'est se comporter comme un cochon. Excusez-moi, hein. Je l'avais entendu, j'ai trouvé ça très bien. C'est ça en fin de compte. Il ne faut pas l'oublier. Ce ne sont pas ces choses-là. Ce à quoi le Seigneur nous appelle, c'est la sobriété en toutes choses. C'est la sobriété en toutes choses. La vraie sainteté est ailleurs. On en parlera quand on abordera le chapitre 3. L'apôtre Paul parle de certaines choses. Hein, au verset 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » Il parle de certaines choses, bien sûr. Mais cela a pour fondement notre foi en Jésus-Christ et le fait que nous sommes ressuscités en lui et avec lui. On en parlera aussi une prochaine fois de tout ce qu'implique cette résurrection que nous avons vécue en Christ et avec lui, que son nom soit glorifié. Il y a donc une fausse sagesse, une fausse sainteté, et en plus, une fausse spiritualité qui n'est en fait que du mysticisme. Ils s'attachent à des visions qu'ils ont, un culte des anges, un culte des anges. Parce que pour eux, Jésus n'était pas suffisant. Il fallait s'adresser à des anges, à des esprits. Mais tout ça ne mène à rien. Et aujourd'hui encore, certains disent avoir eu la visite d'un ange ou d'un esprit qui leur a révélé telle ou telle chose à faire, telle ou telle chose à dire, à enseigner. Mais, comme dit l'apôtre Paul par ailleurs, quand bien même un ange du ciel nous annoncerait un évangile qui s'écarte de celui que nous avons reçu, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Nous voulons examiner tout ce qui nous est dit à la lumière de la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui proposent certaines méthodes qui paraissent spirituelles, surtout dans le domaine de la psychologie, qui fait beaucoup d'échos, qui prend corps de plus en plus. Et il y a certaines méthodes qui pourraient avoir du résultat. Et effectivement, ils ont du résultat. Mais quand bien même quelque chose a du résultat, ça ne veut pas dire pour autant que la chose est bonne et que c'est dans la volonté du Seigneur. Comprenez bien. Il y a des guérisseurs qui guérissent. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller les consulter. Il y a des médiums qui disent des choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les consulter. Et puis, il y a toutes ces méthodes qui existent aujourd'hui dans certains domaines de la psychothérapie qui pourraient entrer, je ne dis pas qu'il faut tout rejeter, mais qui pourraient prendre un certain vernis chrétien, mais qui renie la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Certains mettent l'accent sur la puissance de la pensée. D'autres, sur la pensée positive, sur le fait qu'il faut visualiser une chose pour la voir. Mais nous avons tout pleinement dans notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, que nous faut-il faire? Ce n'est pas la peine de rentrer dans tout ce qui existe aujourd'hui. Nous avons la parole de Dieu et nous voulons confronter tout ce qu'on nous dit à la lumière de la parole de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira « Prenez garde ». Il nous faut être sur nos gardes. Il nous faut veiller pour que ces choses-là ne viennent pas nous contaminer et influencer nos cœurs et nous séduire. Mais ce qui est aussi très important, c'est, comme dit l'apôtre Paul au verset 7, c'est d'être enraciné et fondé dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. Lorsqu'un arbre est bien enraciné, il ne bouge pas de sa place. Il est solide, fermement. Et non seulement il est solide, mais en plus les racines, ça sert à quoi? Non seulement à tenir l'arbre, mais en plus à le nourrir. Il va puiser ainsi toutes les forces dont il a besoin pour sa vie, j'allais dire, pour pouvoir grandir, pour pouvoir porter ses feuilles, etc., pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Il va puiser sa force dans la terre et il a cette énergie par ses racines. Nous sommes enracinés en Jésus-Christ, alléluia. Amen. C'est en lui que nous sommes solidifiés et nous tirons notre force en lui. Nous en parlions mardi soir lors de notre étude de mardi soir. Notre source, elle est en Jésus-Christ. Et tant que nous sommes enracinés en lui, nous puisons tout ce dont nous avons besoin en la personne, tout ce dont nous avons besoin pour vivre ici-bas, les forces nécessaires, parce que c'est vrai que c'est difficile, certaines situations sont compliquées et nous pourrions être tentés, justement, vu parfois certaines oppositions, certaines difficultés que nous avons, d'utiliser certaines méthodes pour arriver à nos fins. Mais le Seigneur est celui en qui nous avons cru. L'apôtre Paul dira « Je sais en qui j'ai cru ». Et c'est lui qui a la solution à tous nos problèmes. Enraciné, mais pas seulement, fondé en lui. Amen. Fondé en lui. C'est en lui que nous sommes fondés. C'est la pierre d'angle. Nous ne voulons pas rejeter cette pierre d'angle. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que nos vies sont fondées et qu'elles peuvent ainsi demeurer solides, que son nom soit glorifié. Amen. Nous sommes donc attachés à notre Seigneur Jésus-Christ et nous demeurons fermement. Mais comment passer à côté de la partie centrale de ce chapitre que nous avons au verset 14 et verset 15, que nous allons relire, que nous rappelons bien souvent lorsque nous prenons la Sainte Cène ou lorsque nous évoquons la croix, le sacrifice de notre Seigneur à Jésus à la croix. Mais on va relire ce verset 14 et ce verset 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Nous sommes là au centre du message de l'apôtre Paul dans ce chapitre 2. La croix. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul évoque assez souvent la croix, car c'est la base de toute notre foi, le sacrifice de Jésus suivi de son éclatante victoire sur la mort. Il est ressuscité. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Ça subsistait contre nous, comme nous l'avons vu il n'y a pas si longtemps, un mardi soir. C'est pour cela qu'on n'a plus rien à nous imposer. C'est pour cela qu'il n'y a plus besoin qu'on nous juge au sujet du manger ou du boire, d'une fête quelconque, d'une nouvelle lune, des sabbats. On n'a plus à nous dire, eh bien, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ces choses-là qui étaient dans la loi de Moïse et qui condamnaient. Mais il a effacé cela à la croix. Il a tout accompli. Amen. Nous avons en Jésus un plein pardon. Nous avons en Jésus, qui est monté sur la croix, la purification de tous nos péchés. Un péché, c'est un péché. Aujourd'hui, on veut psychologiser le péché. Alors bien sûr, il y a des conséquences à des problèmes psychologiques. Je ne le nie pas, c'est un vrai problème. Mais n'oublions pas aussi que Jésus guérit les cœurs brisés. Nous avons tout pleinement en lui. Amen. C'est normal que le péché touche notre psyché, notre âme. C'est ça en fin de compte. Hein. C'est normal, puisqu'il touche tout notre être, corps, âme et esprit. Mais Jésus a réglé le problème du péché à la croix. Amen. Il a réglé le problème du péché à la croix et en lui nous avons la victoire. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistait contre nous. Il l'a détruit. C'est détruit. Amen. En le clouant à la croix, nous avons une pleine victoire. Nous avons la libération en Jésus. Oui, c'est possible d'être libéré. Quelqu'un dira, mais moi, ce n'est pas possible. Tout est possible à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quoi qu'on ait pu faire, Jésus peut nous pardonner. Nous sommes peut-être pris par certaines passions, addicts par certaines choses. Jésus peut nous en libérer. Quelqu'un dira, j'ai tout essayé, je ne peux pas. J'ai connu des personnes qui s'adonnaient à l'héroïne, une drogue puissante. Elles sont venues dans l'église. Nous avons prié pour ces deux jeunes filles. Instantanément, elles ont été livrées de la puissance de l'héroïne. Ça, c'est ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, certains ont besoin de cure, mais le Seigneur, il sait par où chacun doit passer. Mais néanmoins, il est quand même avec eux, il les accompagne. J'ai connu un autre homme, depuis des années, il était alcoolique, de nombreuses années. Il avait détruit sa famille à cause de cela. Cure de désintoxication sur cure de désintoxication, ça tenait 3 semaines, il est retombé dans l'alcool 3 semaines après. Il ne pouvait pas s'en débarrasser. Jusqu'au jour où le Seigneur a mis sa main. Alléluia. Un matin, alors que j'étais en prière, le Seigneur me met à cœur d'aller voir cet homme. Je vais le voir, je frappe à sa porte, ça ne répond pas. J'insiste, ça ne répond toujours pas. Et comme le Seigneur m'avait mis à cœur d'aller le voir, j'ai ouvert la porte. Heureusement, elle n'était pas fermée à clé. Merci Seigneur. En fin de compte, Cet homme gisait dans son sang, dans ses glaires. Il avait encore bu, il était tombé. Si je n'étais pas venu, je ne sais pas ce qui serait advenu de lui. J'ai appelé les pompiers, ils sont venus. Ça a été la dernière fois que cet homme a touché à l'alcool. Nous avons prié pour lui et Jésus l'a délivré instantanément. Alléluia. Ça, c'est la puissance de notre Seigneur. C'est la puissance de notre Seigneur. Sans parler de tous ceux qui ont des problèmes parce qu'ils sont possédés. N'oublions pas au verset 15 que Jésus dira, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Amen. Il a triomphé de toutes ses dominations et de toutes ses autorités. Et c'est important que l'apôtre Paul dit ça aux Colossiens, surtout avec tous ceux qui avaient les cultes des anges, etc., qui priaient ces anges, qui priaient ces esprits, parce qu'ils pensaient ainsi avoir plus de résultats qu'en priant Jésus, dont ils méprisaient la personne. Mais Jésus est celui qui a triomphé d'elle par la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle. Alors là, l'apôtre Paul ici prend une image pour que les Colossiens comprennent bien. Dans l'Empire romain, lorsque l'Empire romain revenait vainqueur avec son armée d'une campagne militaire, il traînait derrière eux les vaincus. Il les attachait avec des cordes ou autre chose, et il les traînait derrière eux pour les mettre en spectacle et dire à la population, nous avons triomphé d'eux, ils sont maintenant sous notre domination. Et Jésus prend ici une image que les Colossiens connaissaient bien puisqu'ils étaient dans l'Empire romain. Il a triomphé d'elles, alléluia, il les a livrés publiquement en spectacle. La croix, c'est une défaite spectaculaire des ténèbres et de tout ce qui va avec. Alléluia. Des ténèbres et de tout ce qui va avec. N'ayons aucune crainte. Jésus est le grand vainqueur. Alléluia. Jésus est le grand sauveur. Et il libère encore les personnes qui aujourd'hui sont tenues par ces puissances démoniaques. Il est celui aussi qui nous donne d'y voir clair entre ce qui est ténébreux et ce qui vient de la vraie lumière, de toutes ces fausses doctrines, ces doctrines de démons dont l'apôtre Paul nous parle ailleurs. Le Seigneur est celui qui a triomphé de tout cela et qui donne à son peuple d'y voir clair. Il a triomphé, le Seigneur est le grand vainqueur. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des personnes qui sont troublées dans leur âme, dans leur esprit, parce qu'ils entendent des choses, ils entendent des voix ou je ne sais trop quoi encore, qui les poussent à faire certaines choses. Je me rappelle ce jeune homme qui venait à l'église, il entendait des voix et une voix un jour lui a dit de mettre le feu à son appartement et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Mais j'aimerais vous dire que Jésus peut libérer de tout ça. Jésus peut libérer des ténèbres. Alléluia. Il a triomphé d'elle par la croix. C'est extraordinaire ce qui s'est passé à la croix. C'est extraordinaire. Non seulement Jésus nous a donné ce qu'on ne pouvait pas avoir, c'est-à-dire le salut de notre âme, le pardon de nos péchés, la purification de nos cœurs et tout ce qui va avec. Et en plus, il a vaincu Satan et toutes les dominations qui peuvent exister. Alléluia. Et englouti la mort. Car Jésus est ressuscité. Et nous avons en lui une vie nouvelle. Comme l'est dit au verset 12, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui qu'il l'a ressuscité des morts. Que son nom soit béni. La puissance de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse. L'infinie grandeur de la puissance de notre Seigneur. Nous n'avons pas affaire à un petit Dieu, comme le croyaient certains dans cette époque-là, à un Dieu parmi les autres. L'Antiquité avait tout un tas de dieux. En Grèce, ils avaient tout un tas de dieux. Dans l'Empire romain aussi, chacun avait son dieu. Il y avait un dieu pour tout, un dieu pour la guerre, un dieu pour la prospérité, un dieu pour la santé, un dieu pour tout. Enfin, il y avait un dieu pour tous les domaines de la vie. Mais Jésus n'est pas un dieu parmi les dieux. Il est le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Celui qui est au-dessus de tout. Et c'est ce que rappelle ici. Et on comprend pourquoi l'apôtre Paul le rappelle. Dans ce monde de l'Antiquité, avec tous ces dieux, il est dit au verset 10 qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Et aujourd'hui, encore, il nous faut rappeler ces choses-là, que Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Il a eu le premier mot, il aura le dernier. À lui soit la gloire. Amen. Merci Seigneur.